spécialisé en science politique et fantastique. Donc je suis l'erreur de casting de la table ronde. C'est-à-dire que je n'écris pas sur les zombies. Je n'aime pas les zombies. Non, voilà, mais c'est en tout cas, c'est un sujet extraordinairement intéressant, donc je suis content d'être là quand même pour en parler.
Moi, je suis Fabrice Gagos, auteur BD et illustrateur, principalement donc dans le fantastique et dans l'horreur. Là, j'ai fait une bande dessinée avec des zombies, c'est pour ça qu'on m'a mis là. J'aurais pas dû.
Bonjour, je suis Nicolas Chenadel, je suis chercheur sur l'imaginaire. Ma spécialité d'origine, c'est la littérature médiévale, l'imaginaire médiéval, en particulier les romans arthuriens. Ensuite, je me suis spécialisé dans l'imaginaire des nouvelles technologies. Accessoirement, pour ceux qui m'ont vu hier, ils le savent, j'ai bossé au CEA pendant 3 ans. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans que j'y suis plus. Je me spécialise dans la communication. Voilà.
Merci messieurs, donc je vais y aller à la voix. C'est
plus simple.
Oui, je pense que
c'est pas
plus mal.
Donc, merci messieurs. Permettez-moi, avant toute chose, de vous féliciter, parce que si j'en juge par vos capacités intellectuelles présentes et par vos physiques, vous avez survécu à la zombification, du moins pour le moment, la journée n'est pas finie. Donc, vous qui êtes des survivants, vous qui avez survécu à l'invasion zombie d'hier, qui a été rattrapé magistralement par notre bisounours préféré, que représente pour vous personnellement la figure du zombie aujourd'hui ?
Vas-y,
on va commencer par là.
Non,
on est obligé de parler
de tout. Ah non, c'est trop dur.
Pour moi, je trouve ça juste fun, en fait. Ça permet de faire pas mal de choses, ça permet de taper sur pas mal de gens, ça permet de c'est une bonne excuse en fait pour faire un peu n'importe quoi. Et moi, c'est surtout comme ça que je le vois. Je ne suis pas quelqu'un de très très philosophique de toute façon, donc quand on n'est pas de série B, de série Z, il ne faut pas trop réfléchir. Mais c'est juste un moyen fun de raconter des histoires pour moi. Voilà.
Oh là. Bon, c'est un peu la question massive. Je ne vais pas répondre entièrement dès la première intervention, parce que ça serait long. Moi, je vais juste parler de ce que j'ai ressenti hier, justement sur la Zombie Walk, là, quand on était à la librairie et puis on avait passé les zombies. Moi, j'avais déjà eu l'expérience une fois à Dublin aussi. C'était la première fois que je tombais là-dessus. On était dans le quartier des pommes et puis il y avait tous ces zombies qui passaient. Et c'est marrant, ma première réaction, finalement, a été une réaction de désir. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une dimension érotique très forte dans le zombie, tel qu'il est en tout cas vécu dans une marche zombie. C'est-à-dire qu'il y a un côté sanguin, sexuel, qui est très fort, et qui se conjugue avec une sorte de sentiment évidemment de dégoût, d'horreur. Et ce rapport au corps extrêmement ambigu qui est entre la peur et le désir, ça m'a interpellé, ça m'a bien secoué. Et je me suis dit, mais pourquoi ça produit ça, quoi. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est sur cet affect primaire que ça génère, je trouve assez puissant. Quoi, voilà, sur le...
Bon, moi, le zombie, Alain Damasio parlait d'erreur de casting, bon, pour moi c'est un peu la même chose, on va dire. Je ne suis pas un spécialiste de la question. J'ai découvert ça grâce à un ami qui est ici, il y a très peu de temps, il y a 2 ans, même pas. À travers le Walking Dead, super t-shirt, super série, super comics, c'est génial. Et en fait, avant, pour moi, le zombie, c'était quelque chose de pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux, quoi. Des espèces d'abrutis qui se débrouillent toujours pour se faire croquer dans des situations absolument absurdes. Non, c'est pas sérieux. Mais en fait, j'ai découvert quelque chose d'ultime dans le zombie, c'est que bien au contraire, c'est totalement sérieux. C'est un prétexte moderne, je trouve, à la réflexion philosophique. Ça ratisse toutes les grandes questions philosophiques. Le zombie paraît bien loin d'Heidegger, bien loin de Michel Henry, mais en fait, il est prétexte à continuer ce genre de pensée qui paraissait élitiste pour tout le monde. Voilà. C'est un sujet de philosophie universelle.
merci. Donc, si je rassemble tout ça, on a donc une figure ultime pour Nicolas, une source d'amusement pour Fabrice, et pour Alain, on a presque un aspect sexuel du zombie. Encore qu'on peut se demander si le zombie peut avoir des rapports sexuels, peut avoir une érection. C'est une grande question, le mort-vivant peut-il avoir une érection ? Mais précisément, vous ne parlez pas tous du zombie. Hein. Alain le déplorait tout à l'heure. Vous ne parlez pas tous du zombie dans vos œuvres ou vos travaux de recherche. Et quand vous l'évoquez, vous n'en parlez pas tous les trois de la même façon. Alors, quand on pose la question de l'altérité, comment l'utilisation ou la non-utilisation du zombie peut évoquer cette altérité ? Ou si on pose la question différemment, qu'est-ce que le zombie ou son absence peuvent nous dire de notre rapport au monde, à l'autre monde également, et précisément à autrui, puisque autrui parcourt ce monde, nos relations sont des relations avec autrui. Comment est-ce qu'on peut débrouiller tout ça
sur le zombie, effectivement, il y a un rapport à l'altérité, mais c'est moins la dimension sociale que la dimension de l'altérité fondamentale pour moi, qui est la mort. Il n'y a rien de plus autre pour nous que la dimension de la mort, puisque effectivement on est des vivants. Moi un des premiers aspects qui me paraît évident sur le zombie, c'est que c'est notre façon moderne de traiter notre rapport à la mort. Et on est une société qui a décidé de congédier au maximum et d'effacer au maximum son rapport à la mort. Je pense qu'on est la société peut-être la plus médiocre de beaucoup sur la ritualisation du rapport à la mort, sur l'utilisation de la mort comme édification personnelle, psychologique, sociale. Et je pense que dans ce monde-là, le zombie vient rappeler cette dimension-là, et il vient la rappeler d'une façon vivante, justement. C'est le principe même du mort vivant, c'est-à-dire que c'est pas la mort comme tout trait insécable qui va couper l'existence en deux et dire il y a la vie, il y a la mort. C'est la mort présente en nous, même au quotidien. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un thème qu'a beaucoup développé Bichat, par exemple, ou Foucault en reprenant Bichat, c'est-à-dire c'est de dire la mort ne vient pas à la fin de notre vie, la mort, elle est coextensive à notre vie interne tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui meurent, il y a des choses en nous qui sont des forces mortes, il y a une pensée en nous qui est une pensée morte, il y a des sensations en nous qui sont des sensations mortes, et cette mort-là n'arrête pas de talonner et d'être coextensive aux forces vitales qu'on a aussi en nous. Quoi. Et le zombie, je trouve, pour moi, est l'exhumation de cette dimension mortelle coextensive à chacun des instants de notre vie. Et c'est pour ça que je pense que ça nous touche autant, c'est que ça nous rappelle ça de façon puissante. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai voulu commencer aussi sur le désir, sur les deux grands désirs fondamentaux, enfin en tout cas les deux grands affects fondamentaux, c'est-à-dire le désir et la peur, qu'articule comme ça en boucle le zombie, parce que pour moi c'est un moteur de temps le zombie. Hein. Il nous répulse et il nous attire aussi, quoi. Parce qu'il nous attire par sa puissance morbide, mais aussi il nous fait peur, parce qu'il nous met en face de la circonstance de la mort. Donc cette espèce de moteur de temps affectif me paraît très important pour la séduction qu'il opère dans tous les champs de la création aujourd'hui. Quoi. Mais après, il y a toute une dimension philosophique, je suis complètement d'accord avec Sidi. C'est incroyable, parce qu'il y a une dimension politique zombie, il y a une dimension philosophique sur le rapport à la mort, mais sur plein d'autres choses, on en parlera après. Il y a une dimension psychologique. Quand tu parles de l'altérité, je me dis, c'est moins le rapport à l'autre qui m'intéresse dans le zombie que la façon dont on extrait ces forces de mort en nous et on les pose devant nous comme quelque chose qui nous est étranger. C'est-à-dire que c'est une sorte de portrait de Dorian Gray, de tout ce qui vient nous miner intérieurement. Et donc c'est l'altérité, mais l'altérité en nous, qu'on extirpe et qu'on plaque sur une figure. Et je crois qu'on pourrait dire beaucoup de choses aussi sur le vampire et le lien entre zombie et vampire, sur ces dimensions-là. Quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette extirpation de toutes les forces de mort qui agissent quotidiennement en nous, et on en fait une figure. Et une figure très vivante, une figure extrêmement motrice. Quoi. Voilà.
Pour moi, c'est un peu particulier parce que justement, je suis peut-être un tout petit peu différent de mes collègues. Déjà, j'aime beaucoup. Pas du tout moi comme les. Justement, parce que c'est assez récent, entre guillemets, qu'on utilise le zombie de manière aussi vaste, on va dire, et aussi, un peu à toutes les sauces. Et on l'utilise sans cesse comme une analyse sociologique, en fait, on n'arrête pas de dire justement que ça permet d'analyser la politique ou la réaction des gens, justement dans Walking Dead, de voir comment les gens vont réagir avec l'apocalypse, etc. etc. Et pour moi, c'est plus, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est plus un vecteur pour raconter une histoire, créer une situation. Après, faire un outil sociologique ou une représentation de soi différente ou la peur de la mort. Personnellement, je suis pas là-dedans et je suis pas convaincu. En fait, il y a une forme de. Un truc qui me gêne, moi je suis fan d'horreur depuis que je peux être fan d'horreur. Et là en fait, il y a une espèce d'effet de mode sur le zombie. Il y a beaucoup de gens qui sont très très attirés par les films de zombies, par Walking Dead justement, les BD zombies. Alors qu'à la base, ils n'aiment pas du tout l'horreur. Ils y voient justement un aspect très philosophique. Et on oublie ce que c'est à la base que de faire des histoires d'horreur. Donc, sur ce point de vue-là, moi je suis un tout petit peu dubitatif, même si je reconnais qu'effectivement, si on veut faire quelque chose pour analyser la société, voir comme les gens changent, quand les situations changent, leur rapport à la mort, le zombie est très utile pour ça. Mais j'aimerais bien que ça ne soit pas systématique. En fait. Pour moi, le zombie, c'est vraiment un monstre, même type qu'un loup-garou, que je suis un peu ancienne école à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était plus fun, mais plus pour raconter des histoires. Voilà, je sais pas. Je vais passer le micro à mon voisin qui aura certainement beaucoup plus de choses à dire là-dessus.
Mais c'est déjà pas mal.
Moi je voulais rebondir sur quelque chose qu'Alain vient de dire, je trouve très juste. Le zombie, c'est la façon moderne finalement d'exprimer notre rapport à la mort. Et ça, pas simplement, on va dire intuitivement, mais ça l'est très concrètement. Ça l'est très très concrètement, c'est-à-dire que si on regarde les films de zombies, qui est plutôt ma tasse de thé, si on les regarde attentivement, on se rend compte que les motifs de la littérature arthurienne, notre monde, toute la mythologie celtique, etc., jusqu'à aujourd'hui, on les retrouve très simplement, très clairement, sans embâge, dans les récits de zombies, et en particulier les films. Je prends par exemple le film L'Aide aux Odettes. Les zombies et les vivants sont disposés géographiquement de façon très précise. Les vivants sont au centre du monde et symbolisés par un building. Les zombies sont au banc de la société et ce banc est séparé du monde par une rivière. Et les zombies vont à un moment traverser cette rivière. La traversée de la rivière est un motif extrêmement important quand il s'agit de parler, dans la littérature arthurienne en particulier, de l'autre monde. Le motif du guet dans l'autre monde, le guet c'est très important, c'est ce qui sépare l'eau, c'est ce qui sépare notre monde de l'autre monde. Donc quand les zombies traversent l'eau, ils rentrent dans l'autre monde. C'est ça qui est important. Et je prends un autre motif qui est très intéressant, celui du cerf, celui de la biche, dans les romans arthuriens et aussi dans la littérature celtique. La blanche biche, le cerf blanc, le lapin blanc ou vert, etc. Ces animaux psychopompes, ces animaux qui communiquent, qui font les allers-retours avec l'autre monde, on les retrouve aussi, étrangement, dans les films de zombies et particulièrement, là, je l'ai vu dans Walking Dead. Alors, je l'ai vu pas dans le comics, mais dans la série télé. On rencontre un cerf, et ce cerf, il est là en tant qu'animal psychopompe pour faire le trajet avec notre monde. Voilà. Donc, notre rapport à la mort modernisé, c'est le zombie, ni plus ni moins. J'ai plein de choses et plein d'autres choses à dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole.
Je rebondis simplement. On pourrait parler de la figure du passeur, en fait, Caron.
Oui,
ne serait-ce que lui, dans la littérature médiévale, il est omniprésent.
Vas-y.
Ouais. On va la refaire. Je disais, on peut penser, ça c'est la figure du passeur, car qui est très très présent dans la littérature médiévale, mais très présent en mythologie, où il peut avoir des rapports avec Caron.
Ben. Alors, je voulais me taire, mais je suis obligé de rebondir, effectivement, Caron. Mais la figure du passeur Saint-Christophe, la figure du passeur le géant, la figure du géant dans les romans arthuriens est une figure essentielle. Et ce géant-là, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en gros, dans les romans arthuriens, on retrouve la figure du géant. Ce géant est là, il est là pour ça, pour se faire décapiter. Il est là pour se faire décapiter. Et cette décapitation
va permettre le passage d'un temps, parce que dans la littérature médiévale, on est encore dans un temps cyclique, et il va permettre le passage d'un temps, notre temps, à, au temps suivant, au cycle temporel suivant. Bon, en gros, on peut dire aussi qu'il permet le passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, de la vie à la mort, etc. etc. Bon, ce géant, il se fait décapiter, tout le monde, tous ceux qui connaissent un peu le zombie, savent que le rapport à la tête du zombie est très important. Bon, décapitation, trépanation, défonçage du cerveau, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Finalement, on retrouve encore ce géant arthurien, ce géant des romans médiévaux, qui sont si loin de nous, mais à la fois si proches, on les retrouve dans la vie.
Eh ben, vos trois réponses me permettent d'entrer sur la question un peu plus personnelle. Merci. D'entrer sur la question un peu plus personnelle que je voulais vous poser à tous les trois. Je vais commencer peut-être par Alain, qui évoquait, on aura pas la mort, vous l'avez tous évoqué, mais de façon particulière, parce qu'effectivement, dans son œuvre, il n'y a pas de c'est un fait, il n'y a pas de zombie. En revanche, il me semble, si on doit se rappeler par exemple de la Horde du Comment, il me semble qu'il y a notamment un rapport à la mort qui est absolument omniprésent, puisque les personnages sont sans arrêt menacés par cette mort, sans arrêt menacés par ces morts. Et ce que j'aimerais savoir, c'est au travers de ces figures de mort, le vent est une figure mortuaire, mais est-ce que dans un travail futur, on ne pourrait pas penser à un équivalent du zombie qui y arriverait comme une autre expression de cette mort qui semble si, si fascinante dans les romans, que ce soit dans Contre-Grand ou dans la zombie d'horreur, par exemple. Est-ce qu'on pourrait penser à l'arrivée d'une figure zombiesque dans l'œuvre d'Alain Damasio?
Dimanche matin, c'est dur. Honnêtement, je crois pas. Je crois pas pour des raisons fondamentales de mon travail artistique qui sont que moi, je suis sur le versant de la vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, je l'ai toujours dit, c'est de se poser la question qu'est-ce que ça veut dire être en vie? Qu'est-ce que ça veut dire d'être à la hauteur de ce don magnifique qui est d'être un être vivant? Voilà, donc moi, je travaille beaucoup plus sur des notions comme le mouvement, comme le lien, comme la création, comme la fécondité, etc., qui sont vraiment des valeurs du vivant. Donc, si j'utilise la figure du zombie, ça va être vraiment pour incarner ce que j'appelle moi le vitalisme sur fond de mortalisme, c'est-à-dire le fait que c'est en étant conscient constamment de la mort potentielle ou de la mort possible en nous ou de la mort par accident toujours possible qu'on vit d'autant plus intensément, de façon d'autant plus riche, d'autant plus féconde parce qu'on a cette conscience-là et qu'on l'efface pas et qu'on la congédie pas et qu'on vit pas dans l'autoconservation et dans la survie du corps mais qu'on vit dans l'intensité. Et qu'on se dit, ben, regardez un Van Gogh, regardez un Rimbaud, c'est des gens qui sont morts à 37 ans et qui ont vécu avec une intensité extraordinaire, qui ont produit des œuvres qui restent et qui sont des vrais vecteurs de vie. Et que par rapport à ça, le sentiment de la mort ou la mortalité en nous, c'est plutôt un aiguillon permanent, un stimulant permanent pour éprouver en permanence la chance et la puissance de ce que c'est qu'être en vie. Donc moi, c'est plus dans cette figure-là que j'utiliserais éventuellement le zombie ou une force comme ça qui serait ambiguë. Et qui fonctionnerait à la fois sur le désir et la peur. Je voudrais ouvrir aussi sur autre chose, c'est que moi ce qui m'a frappé hier dans cette expérience du zombie walk, c'est que je me suis rendu compte que ça véhiculait aussi toute une esthétique très forte et je me suis interrogé sur pourquoi j'avais ce désir, qu'est-ce qui produisait ce désir que j'avais. C'est-à-dire que j'étais pas horrifié, j'avais aussi un désir. Et ce désir, alors tu peux dire oui, il y a le sang, le sperme, etc. Il y avait des liens comme ça, on peut dire aussi, et c'est vrai que la cicatrice est une forme de fente, il y a un côté comme ça extrêmement dévoilant. Et il y a une érotique de la blessure, il y a une érotique de la plaie, il faut le dire. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que, oui, ça traduit le rapport à la mort, mais ça traduit aussi un rapport au corps. Et un rapport au corps qui est... Et je me disais, tu vois, je pensais, il y avait beaucoup de filles, etc. Je me disais, mais quel est le plaisir qu'elles ont à être dans cette zombie walk? Pourquoi il y a ça? Et je pense, on va en discuter vraiment avec les gens qui l'ont fait, mais je pense qu'il y a un vrai plaisir à contrer l'esthétique habituelle, la beauté et les canons de beauté habituels. C'est-à-dire, les canons de beauté habituels sont fondés sur quoi? Sur le lisse, le visage lisse, sur l'hygiène, sur certains critères de symétrie esthétique, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de valeurs esthétiques qui nous sont martelées à longueur de journée et dont les filles ont à subir la prégnance et à se conformer très souvent malgré à la prégnance de ces canons esthétiques-là. et que le zombie tout d'un coup permet enfin d'échapper complètement à ce champ esthétique là et de dire ben non, le strié, le blafard, le sale, le sanguin, l'irrégulier sont aussi des critères esthétiques et on peut enfin lâcher ces aspects là de nous-mêmes quoi. Et ça je pense que c'est un immense plaisir et ça fait du bien. Et même, je dirais que la figure érotique que ça peut générer vient aussi de cette étrangeté, de ce renouvellement des canons esthétiques. Donc moi, personnellement, j'ai absolument ras-le-bol, parce qu'on voit constamment des modèles sur des affiches, on est constamment sollicité, nous, sexuellement et hormonalement, sur les mêmes critères et les mêmes canons, et qu'à un moment donné, quand ces canons changent, tout d'un coup, on sent que notre désir peut s'éveiller autrement. Donc le rapport au corps que ça induit, les zombies, moi, je trouve ça intéressant, et ça renouvelle complètement ces choses-là. Et je pense que c'est un sujet aussi de séduction... pour le grand public, et en tout cas, c'est ce qui explique en partie aussi le succès de cette figure qui est hyper, effectivement, qui est hyper investie aujourd'hui. Ça devient un cliché, quoi, faut reconnaître, quoi, ça devient un cliché. Et les amoureux de la première heure, je comprends, doivent être un peu énervés par cette réutilisation de ce thème constant. Mais ça répond à beaucoup de choses, quoi. Et dernière chose aussi, c'est que, moi, on en a parlé hier sur une nouvelle technologie, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus dématérialisé, on est dans un monde où, moi, je considère qu'il y a un vrai oubli du corps, en tout cas, il y a un vrai oubli de la chair. C'est-à-dire qu'on est souvent, on a regardé comment on vit, on est souvent 10 heures par jour assis sur une chaise devant un écran. Le corps n'est pas du tout investi, en tout cas il n'est pas investi dans sa chair. Ce qui est investi, c'est le système nerveux central, c'est le réseau de nerfs, c'est les neurones, c'est le cerveau. Et on a rapatrié, j'ai envie de dire, l'espèce humaine dans le système nerveux central, c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Donc on est très dématérialisé par rapport à la chair. Et qu'est-ce que dit le zombie? Qu'est-ce qu'il nous ramène? Il nous ramène la chair. Il nous ramène la chair dans sa purulence, dans ses plaies, dans sa puanteur, dans sa respiration, dans sa, tu vois. Il nous ramène le sang, il nous ramène l'écorché. Et ça. Et ben pour moi, c'est un symptôme de la perte du corps. Quand vous regardez l'art contemporain aujourd'hui, il travaille énormément sur le corps aussi. Il travaille sur l'amputation, il travaille sur les plaies aussi. Et tu te dis, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que le corps est en train de disparaître, en tout cas la chair est en train d'être déléguée, congédiée. On se rapatrie, comme je l'ai dit, dans le système nerveux central. On est dans le dématérialisé au maximum. Et il y a quelque chose qui en nous résiste. Il y a une nostalgie qui résiste, ou il y a en tout cas un appel animal qui résiste. Et le zombie vient incarner cet appel-là et vient y répondre, quoi. Et je pense que c'est une de ses forces, et c'est pour ça que c'est une figure qui me paraît intéressante, ouais. Et symptomatique, voilà. Ouais.
Donc, justement, des personnages qui vivotent, des personnages qui se demandent pourquoi ils sont là et qui essayent de vivre et de renverser les codes tant qu'ils peuvent, bah, il y en a chez Fabrice, notamment avec le personnage d'Adam, dans sa bande dessinée. C'est clairement dit dans le résumé, Adam vivote entre son magasin de DVD et son groupe à l'abandon, à l'agonie, si je reprends les termes exacts. Et en fait, lui, la figure du zombie, Adam, ça va le transfigurer. Il est en guerre permanente contre sa famille, il ne se reconnaît plus dans les codes de sa famille, qui sont des codes essentiellement... sociaux, aseptisés, religieux, puisque tout le tome se passe au travers du prisme d'une église. Et quand les zombies se relèvent, quand ils attaquent, Adam va avoir un mouvement de colère qui va marquer l'échec de la foi, finalement, l'échec de cette croyance en Dieu qui, contre les zombies, apparemment, selon lui, ne peut rien. Donc la question que je poserais à Fabrice, c'est, on a parlé du rapport à l'autre, du rapport au corps. Ce rapport au corps, il existe dans la religion, ce rapport à l'esprit, il existe dans la religion, et on a un personnage qui est, pour ainsi dire, anticlérical dans sa fonction même. Donc, est-ce que, finalement, qu'est-ce que le zombie nous dit par rapport à la religion? Est-ce qu'il est un échec de la religion, le zombie? Est-ce qu'il est là pour montrer que la religion échoue? Enfin, je me base surtout sur la BD, mais la pensée derrière cette œuvre, c'est laquelle par rapport à ça?
Je crois qu'il ne marche plus. Hein.
Je crois
qu'il le passe pour rien.
Ça marche. Ça fait genre.
Allô, dans le style.
Faut s'approcher. En fait, déjà pour commencer à répondre. Non, il marche plus. Déjà pour commencer à répondre, je vais. En début de réponse, je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste un peu avant. Il y a une différence. Enfin, une des choses que je ne fais pas quand j'écris mon scénario ou quand je dessine quoi que ce soit, c'est de réfléchir vraiment à un message ou à un sous-texte. Il y a des choses qui sortent forcément, qui me correspondent un peu. Et c'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure. parler de Walking Dead ou de Land of the Dead avec l'eau à traverser pour, qui séparait les vivants et la mort. Moi, la question que je me pose toujours, parce que personnellement, je ne le fais pas, je me demande si par exemple, au moment où Romero a créé ça, il s'est dit volontairement qu'il allait séparer les morts par de l'eau, parce que c'est... Enfin, ça, je résume...
Ça peut être une définition du talent, quelque part. Le fait de ne pas avoir conscience de...
Ça, je ne sais pas. De délivrer quelque chose. Mais je pense qu'il y a... l'interprétation est toujours plus intéressante par la personne qui n'a pas fait... Du coup, après, là justement, ton interprétation de ma BD est intéressante parce que oui, forcément, Adam est un personnage anticlérical. Je ne suis pas particulièrement copain avec l'Église d'une manière générale, donc il y a un petit peu de moi dedans. Mais c'est plus parce que pour moi, c'est facile de raconter un personnage que je connais, quelque part. Et tu peux prévoir ses réactions, et donc ça me permet de pouvoir raconter mon histoire. Maintenant, de là à dire que alors, il faudra attendre le tome 2 aussi, parce qu'il y a des choses... De là à dire que c'est l'échec de la religion, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'échec d'un modèle de société. Et justement, là, maintenant, je rebondis sur mon voisin de l'autre côté, qui s'impose des règles des stéréotypes aussi, des choses qui doivent être bien. Et dès qu'on est un peu en dehors de ces règles, on est tout de suite un peu mis à l'écart. Alors que ces règles tiennent pas très très longtemps, justement, quand il arrive quelque chose de différent, en fait. Et très souvent, ceux qui respectent des règles très très strictes, plus ce qui arrive est un peu différent, plus ils sont perdus, plus ils perdent leurs repères, et plus ils servent à rien. Donc ils ont une ligne directrice qui leur permet de vivre un petit peu de manière un peu cryogénisée, on va dire. Quand tout se passe bien, tout va bien. Il y a une réponse pour une question, toujours, etc. Et dès qu'on change quelque chose, c'est la panique. Et c'est pas tellement... Alors, j'attaque un peu la religion parce que c'est un truc assez évident, mais c'est plus un côté garder l'esprit ouvert et savoir improviser et pas toujours rechercher à reproduire les mêmes schémas parce que, justement, ça devient chiant. Et après, on est obligé de faire des zombie walk pour s'amuser, quoi. Alors que si on s'amuse tous les jours, on n'a plus besoin de se regrouper pour faire un truc un peu rigolo. Voilà, si on sort un peu de ce qu'on nous impose tous les jours, je pense qu'on est un peu plus... Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, hein, attention. Hein. Mais voilà, donc après, de là à dire que le zombie c'est l'échec de la religion, non, je pense pas. Il y a d'autres choses qui prouvent l'échec de la religion. Mais c'est pas particulièrement le but. Mais c'est surtout pour créer. En fait, j'ai mis en opposition des personnages un peu alternatifs et des personnages très... deux extrêmes, en fait. Et je les ai mélangés dans une situation donnée pour voir un peu ce que ça va donner.
Voilà. On attend le tome 2, alors.
Voilà. Et justement, par contre, effectivement, moi, quand j'écris, c'est toujours marrant de voir les interprétations et les réactions. J'ai presque l'impression d'avoir fait un truc intelligent alors que je ne l'avais pas vu. C'est bien, ça fait du bien. En fait.
Oui, clairement, j'ai fait ma lecture du truc. Hein. Je
l'ai pas. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je vais la récupérer pour faire des résumés, ça sera vendeur.
Le quatrième de coup.
Non, c'est vrai que je. Par rapport à justement l'interprétation du petit texte Adam qui vivote avec. C'est surtout pour dire que justement. Malgré le fait qu'il soit quelqu'un d'assez alternatif par son style et par ses goûts, il est quand même dans une vie un peu plan-plan et avec plein de petits problèmes. Il se passe rien de formidable dans sa vie en ce moment. Et voilà, c'est juste ça, en fait.
Zombie lui met du coup un sacré piment dans la vie.
Bah voilà.
C'est le mot qu'on puisse dire. Finalement, si on regroupe un peu tout ça, on a un zombie qui est...
Ouais, attends, rien.
Apparemment, il est un peu mort, lui.
Non, c'est bon, vas-y.
Le micro est revenu dans les morts, on va en profiter pour ça, c'est dur. Donc, si on reboucle un peu tout ça, on a un zombie qui est très exploité, peut-être même surexploité parfois, on aura peut-être l'occasion d'aborder ce sujet de surexploitation du zombie, mais je me tourne à présent vers Nicolas qui a travaillé la figure, l'imaginaire anxiogène, l'anxiété, qui n'a peut-être pas travaillé le zombie spécifiquement, mais... Si on considère que le zombie est une figure anxiogène, c'est une figure de désir, c'est une figure du corps, c'est une figure anxiogène qui a suscité des regards absolument ébahis hier. Je ne sais pas si vous avez fait attention.
Ouais, c'est marrant de voir.
Assez magnifique. pourquoi est-ce que le zombie a l'air d'être à ce point une figure tellement utilisée pour révéler l'anxiété? Si, qu'est-ce qui, dans ces schémas d'anxiété qui a été développé dans les recherches sur le sujet, dans la thèse notamment, pourquoi est-ce que le zombie peut-il être un exemple aussi efficace? Et déjà, est-ce qu'il est un exemple efficace finalement? Je dis qu'il est efficace, mais peut-être pas.
Bon, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la peur. Et c'était pas mon sujet de prédilection à la base, parce que moi, avoir peur, à l'époque, c'était pas mon truc. Bon, j'y suis venu à force, hein, et finalement, me faire peur, c'est devenu un plaisir. Il s'avère que le sujet est vraiment, vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on a une vision de la peur qui est fixe depuis, on va dire, 2000 ans. La peur, j'ai encore entendu ça hier, la peur serait simplement une réaction. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours. La peur serait une réaction et elle aurait des conséquences. Voilà comment on définit la peur. En gros, elle se situe entre un principe de causalité. Donc, cause-conséquence. Mais il s'avère que quand on définit la peur de cette façon, finalement, on ne définit pas la peur. On définit ce qui est la cause et on définit ce qui se passe après. Mais la peur en elle-même, le phénomène de la peur, donc c'est-à-dire que là je parle de phénoménalité, il faut approcher le sujet par la phénoménologie, la peur elle-même, on ne la touche jamais. D'où la thèse que j'ai pondue il y a quelques temps. Il s'agissait pour moi de trouver vraiment ce qu'était la peur. À mes yeux, on va dire que la peur, en fait, c'est une modalité de l'être. On est parfois peur. On n'a pas besoin d'avoir une cause de la peur. On peut être soi-même une peur à un moment qui se projette vers le monde et qui révèle les choses de façon anxiogène. Cette table n'est pas anxiogène du tout. Elle ne l'est pas. Si je la soulève, si j'en étais capable, si je la soulevais et que je vous la... Hein ? Là, vous auriez peur. Ma table basse, la table de mon salon, pareil, elle ne m'a jamais fait peur. Quand mon fils a commencé à marcher, les coins de ma table basse commençaient à devenir effrayants. Finalement, ce qui fait peur, les causes de la peur, c'est juste la façon dont on a de les interpréter comme étant anxiogènes. Donc le zombie, pour en revenir à lui, le zombie, pourquoi il fait peur? Le zombie ne fait pas peur, c'est nous qui l'interprétons comme ça, à travers des choses que nous reconnaissons, selon moi, des choses que nous reconnaissons en lui, des choses que nous savons, qui sont en nous, qui sont dans notre chair, dans notre corps, et qui font que nous reconnaissons ces choses. Ces choses sont au nombre de deux. Un, nous reconnaissons les choses comme faisant peur parce qu'elles nous pénètrent, et potentiellement nous pénètrent. Deux, nous reconnaissons les choses comme potentiellement anxiogènes parce qu'elles nous étouffent, parce qu'elles nous contraignent, parce qu'elles nous enserrent, parce qu'elles nous enveloppent, etc., etc. Forcément, ces termes, ils sont ambigus, et ils peuvent être aussi positifs. La pénétration, pas besoin de développer. L'enveloppe, le cocon, etc., pas besoin de développer. Mais ce sont des dynamismes, on va dire anthropologiques, pour employer encore le gros mot. Ce sont des dynamismes qui sont ancrés en nous et qui vont nous permettre de reconnaître les choses. Alors le zombie. Le zombie, bah oui, le zombie, il nous chope, il nous attrape. Comme le croque-mitaine. Le zombie, avant tout, avant d'être une gueule qui dévore, c'est une paire de mains. C'est une paire de mains qui sort d'on ne sait où. Alors, ils ont beau pas être rapides, ils ont beau... ils courent pas. En gros, on se dit... moi, je me dis toujours, quand je me dis, si les zombies arrivent, qu'est-ce que je fais? Ça vous arrive sûrement, hein, vous le faire. Bon,
tous les jours.
Bon, moi, ça m'arrive très souvent.
J'ai une pelle.
Bon, je trouve que Michel a trouvé la solution avec son sabre. Bon, peu importe. Qu'est-ce que je fais si les zombies arrivent? Eh bien, finalement, il n'y a pas trop de problème. Moi, je cours, pas eux. Donc, en gros, ça risque d'être assez simple. Mais il s'avère que dans la fiction, c'est jamais simple. Parce que, je sais pas, il y a une sorte de furtivité de la main. Elle sort d'on ne sait où. Elle sort tout le temps, elle attrape, etc., etc. Cette main-là, cette main du croque-mitaine, cette main, finalement, cette main anxiogène, la main, pour revenir aux nouvelles technologies, la main du réseau, la main de Dracula, la main de Dark Vador, la main
enfin, avoir une mainmise. La main de l'araignée, est une main. La pieuvre est une main. C'est un croque-mitaine aquatique, c'est un monstre effrayant aquatique, mais qui a la forme de main. Cette main-là, on la retrouve partout. C'est la figure du croque-mitaine, on va dire. Voilà une des causes de l'anxiogénéité du zombie à mes yeux. Ensuite, le zombie, il n'est pas un, il est plusieurs. Le zombie, il est plusieurs, il est beaucoup. Et dans Walking Dead, on en parle comme dans le comics, on en parle comme de l'eau. Voilà, on en parle souvent comme de l'eau, une eau qui se répand. Bon, l'eau qui se répand, le déluge, l'épopée de Gilgamesh, Enuma Elish, la Bible, et les déluges, on les compte pas, il y en a 10 000 différents à travers l'histoire. Bon, cette eau qui se répand, elle est évidemment anxiogène. Pourquoi ? Parce qu'elle noie, elle étouffe, etc., etc. On retrouve ces dynamismes anxiogènes, et donc voilà, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je voulais juste rebondir sur une petite chose, je pense avoir répondu à la question, donc je me permets. Est-ce que Alain Damasio a vraiment la possibilité d'utiliser la figure du zombie dans ses romans futurs? Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que, comme il le dit, il écrit la vie, il réfléchit la vie. Or, quand il y a du zombie, il n'y a plus de vie. Les survivants, ils ne sont pas en vie. Romero le dit lui-même. Un ami me le faisait remarquer hier. Romero lui-même, dès qu'il y a un zombie qui arrive, alors nous-mêmes, on est déjà mort. On est déjà mort. Donc, parler de zombie, c'est parler uniquement de la mort. On ne peut pas se servir du zombie comme prétexte pour parler de la vie. À la rigueur, je pense que la figure du vampire est beaucoup plus propice à ce genre de choses. Et le zombie, c'est de la mort brute.
Juste pour rebondir là-dessus, ça dépend juste d'une chose, c'est que pour moi, il y a deux façons de. Enfin, il y a deux sortes d'œuvres qui traitent de zombies. Il y a ceux à la Romero ou à la Walking Dead où c'est une invasion totale et un fléau. Et il y a ceux que moi j'affectionne plus, qui sont pas vraiment. Alors ça peut être discutable si c'est vraiment des zombies ou pas, qui sont plus ponctuels, justement ce que j'ai fait dans ma BD, sur un lieu où c'est un problème à régler. Qui est possible à régler. Là où chez Romero, c'est un fléau et apparemment c'est parti pour rester et qu'il va falloir s'adapter. Il y a aussi la partie, mais là peut-être qu'on s'approche plus du vampire justement.
Avec de la montée de la mort.
Par exemple, ouais. Et puis les Evil Dead et des choses comme ça, ouais. Un peu plus fun, mais des choses très ponctuelles où c'est un problème et un huis clos en fait. Ça change un peu la donne par rapport à. Après, on peut dire que si c'est sur toute la Terre, c'est la Terre qui est un huis clos, mais
oui.
la solution n'est pas la même. Donc voilà, juste...
Alors, c'est... C'est intéressant parce que pour être franc, je prévoyais de vous poser la question zombie versus vampire. On n'aura de fait pas le temps de la développer, je pense, mais on pourra la développer soit en antenne, soit éventuellement si des questions émergent derrière, c'est possible qu'on y revienne. Je vais vous demander finalement en guise de conclusion avec tout ce que vous avez dit, si tant est que vous compacté. Le zombie qui est finalement devenu si présent, si envahissant dans notre imaginaire, pour le meilleur, pour le pire, il y a de très bonnes œuvres zombies comme il y en a de très mauvaises. Mais est-ce que. pour vous, en guise de conclusion, le zombie est un cliché, est devenu un cliché à force d'être sans arrêt réveillé de sa tombe. Ou est-ce que c'est une illustration efficace de ces thématiques que nous avons abordées dans cette
émission ? Moi, je crois que c'est une grande figure mythologique moderne. Donc, comme toutes les grandes figures mythologiques, elle est appelée à renaître de ses cendres en permanence. Et comme toutes les grandes figures mythologiques, elle possède son lot de clichés. Et sur l'autre créativité. C'est pareil sur la figure du vampire, on la pensait épuisée, et puis là il y a un renouvellement extraordinaire avec la bit-lead du thème du vampire. Voilà, moi je pense que vampire et zombie c'est deux grands thèmes modernes, et c'est deux grands thèmes modernes parce qu'ils touchent justement au corps, à l'oubli du corps, et au renouvellement du thème du corps dans la création contemporaine. Donc je pense pas du tout que ça sera... J'étais très intéressé par l'aspect aussi sur la peur. Moi ce qui me frappe aussi dans la figure du zombie, dans ce qui me paraît faire peur d'un point de vue très animal, c'est qu'on est confronté immédiatement à la dimension de la blessure, de l'amputation, à ce qui peut toucher le corps justement et limiter sa puissance ou le dégrader. Putréfaction, vachement. Image de la mort, c'est-à-dire image du côté livide, rigidité des membres, yeux révulsés, etc. C'est l'image concrète de la mort telle qu'on tel que les gens l'ont vécu au Moyen-Âge et même avant, quand on était confronté aux morts, quand on voyait des morts, on ne voit plus les morts. Mais je pense que c'est dans notre inconscient collectif de savoir reconnaître si quelqu'un est mort ou vivant. Et c'est quelque chose de très animal, très instinctif, et je pense que ça rappelle des choses très anciennes qui sont certainement dans le cortex, je ne sais plus comment on l'appelle celui-là, reptilien, et qui nous reviennent. Donc, et aussi le rapport à la maladie, parce qu'il est malade, il contamine, il y a quelque chose de viral. Donc c'est vraiment les grandes dimensions de ce qui risque de nous dégrader que ramène le zombie en face. Donc la peur aussi, je pense qu'elle y a quelque chose d'instinctive, elle n'est pas uniquement représentative, même si j'aime beaucoup l'idée de pénétration et d'enveloppe effectivement qui vient nous étouffer, où je pense que c'est très vrai, en tout cas c'est des motivations de la peur qui sont très grandes. Donc non, moi j'ai pas du tout de peur, c'est comme si on me disait aujourd'hui, est-ce que le thème, je sais pas, du phénix, est-ce que le thème de Don Juan, est-ce que le thème de... Il y a beaucoup de grands mythes comme ça, sont appelés à devenir clichés ou à se répéter. Oui, il y a beaucoup de clichés, oui, les jeux vidéo, il y a énormément de jeux de vampires et je pense qu'ils s'auto-épuisent au bout d'un moment. Mais en même temps, c'est une figure tellement puissante parce qu'elle a la croisée du corps, du rapport à la mort, des enjeux de contamination, si on n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve ça super intéressant, comment la contamination est quelque chose de... Le zombie, très souvent, il ne va même pas te manger, il ne va même pas te tuer, il va te contaminer, il va te rendre comme lui, quoi, tu vois. Et ce côté contamination dans un monde viral comme le nôtre, qui est fondé sur la nouvelle technologie et la viralité, ça fait écho, évidemment, quoi. Donc encore un thème, si tu veux, c'est comme tous les grands mythes, c'est à la croisée de beaucoup de choses. Et comme ça a croisé beaucoup de choses, ça continuera à être vivant et ça continuera à alimenter la création. Moi, je n'ai pas de soucis là-dessus.
Pour moi, justement, plus qu'un cliché, actuellement, c'est surtout un effet de mode. Il y a clairement une grosse mode. Et je pense que c'est ce que c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est que, et Alain parlait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, se sont mis à aimer le zombie pour les sensations que ça leur procure. En comparaison à leur vie qui est terne, et ils ont un peu l'impression que c'est un peu subversif, c'est un peu sale, c'est pour ça que je suis toujours un peu choqué par pas mal de gens qui arrivent et qui disent qu'ils sont très fans de zombies mais qui à côté de ça ont aucune connaissance de l'horreur, voire même disent ah ouais non mais l'horreur c'est pas pareil. Putain, Walking Dead ils se bouffent quoi, ils se font bouffer, ils arrachent des membres et tout, c'est de l'horreur. Il y a des tripes, voilà, c'est pas moins gore qu'autre chose, mais ça passe. Je pense que c'est plus parce qu'en ce moment, il y a une recherche, une contamination justement de ce genre. C'est le truc qui en ce moment va bien. Ça s'est un tout petit peu calmé, mais il y a je sais pas, entre 5 et 10 ans, je sais pas, j'ai une notion de temps pas très... C'était justement plus le vampire qui était très très à la mode. Bon là, c'est revenu pour des très très mauvaises raisons, mais pendant un moment, c'était ça. Et puis le côté un peu gothique, un petit peu... C'était un peu à la mode. Maintenant, c'est le zombie. Demain, ce sera peut-être autre chose. Le loup-garou, je sais pas. J'aime bien aussi, pourquoi pas. Mais plus qu'un cliché, je pense que c'est un effet de mode. Cet effet de mode passé, par contre, le zombie restera forcément parce qu'il est là depuis très très longtemps. Justement, les gens qui le découvrent maintenant ou qui sont fans de Walking Dead et que de Walking Dead se sont pas forcément intéressés à ce qu'il y avait autour, mais ça existe du coup depuis Romero, depuis même avant, dans les années 50, il y avait déjà des films de zombies. Donc ça restera effectivement comme une figure mythologique, mais actuellement c'est un peu un pic. Ouais, donc forcément avec ses avantages et ses inconvénients.
Bon, sur la figure l'aspect temporel du zombie, il n'y a rien à rajouter sur ce qu'a dit Alain Damasio. Voilà, c'est une figure mythique, c'est une figure mythologique. Alors même si on ne la retrouvera pas sous les mêmes traits dans 200 ans, même si elle aura un peu changé, même si elle ne s'appelle pas zombie, finalement ce sera toujours lui d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait ça. Il disait le mythe, c'est la somme de toutes ses variantes. Voilà. Donc, voilà, le zombie, il est immortel, voilà, culturellement. Ensuite, le coup de la mode, effectivement, oui, il y a une grande mode du zombie, c'est sûr. Et moi, je suis assez pessimiste, on va dire, sur l'avenir du zombie tel qu'on le connaît depuis quelques années. Parce qu'en gros, je disais, il ne faut pas prendre ce que je dis au pied de la lettre, mais c'était une remarque un peu à la con. Que je faisais hier, je disais pourquoi le zombie fonctionne toujours. C'est parce que le film de zombie, allez, on va dire le film N, qu'on a créé il y a 40 ans, il était nul, donc il fallait bien en faire un deuxième. il était mieux, mais il était pas terrible. Et puis on en fait un troisième, et puis c'est de mieux en mieux.
Tant qu'il y a des sous.
Voilà. Bon, en gros, tant qu'il y aura encore un peu d'approximation, et bon, allez, moi je le dis, de nullité dans un film de zombies, eh ben, on continuera à en avoir. Le problème, c'est que c'est de mieux en mieux. Par exemple, dans No The Dead, version. Moi, je suis pas un adepte de Romero du tout. Alors, je vais me faire des ennemis, mais j'aime pas Romero du tout. La version de Dawn of the Dead de façon Romero, alors je me suis marré, un truc, je trouvais ça absurde. La version de Snyder, j'étais sous le charme, quoi. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois, j'adore. Walking Dead, super bien fait, des longueurs, la seconde saison est longue, Bon, ils vont se rattraper là avec Mission qui arrive, je vais essayer de voir un peu comment elle va donner du sabre. Mais le comic c'est génial, donc ça se perfectionne, et donc bah, il y a un moment où bah, on aura bien dit les choses, et puis ça va s'arrêter, ou alors, si on fait le parallèle avec les zombies, bah, on va avoir le phénomène Twilight, et on va retourner à une sorte de médiocrité, et puis ça va être très bien, et ça va contenter tout le monde. Voilà, bon, c'est un peu la vision que j'ai du zombie. Voilà.
Bah, écoutez, on a même quelques minutes pour des questions, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, il y a des questions.
Je ne peux pas utiliser le micro, je vais essayer de donner de la voix.
Ouais.
Alors après, on a beaucoup entendu parler des affaires aux États-Unis de soi-disant zombies. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est là pour faire de la publicité aux gens? Est-ce que c'est utilisé par certains comme publicité pour leurs œuvres actuelles? Ou est-ce que vous le voyez comme un phénomène de société? Serait une réponse en fait à ces œuvres de
zombies. Si je peux me permettre. Bon, effectivement, la question est d'actualité. Alors, là, on a des gens, en gros, si on veut dire ça avec des mots un peu crus, il y a des camés qui bouffent des gens. Est-ce qu'un zombie.
Il recrache.
Ah oui, il recrache. Bon. Est-ce qu'on définit un zombie de cette manière? J'en suis pas sûr. Et même je suis absolument sûr que non. Par contre, il y a des gens, un groupe de gens qu'on appelle grosso modo les médias, qui sont là pour nous raconter des histoires, et qui sont là pour qu'on regarde leur chaîne, et puis pour qu'on regarde leur pub, etc. Et qui seraient prêts à nous faire bouffer n'importe quoi. Les élections régulières sont là pour nous montrer, les publicités débiles sont là pour nous montrer aussi. Et là, en gros, on a trouvé un bon moyen de mettre un peu de sensationnel dans une information qui, franchement, ne vaut pas grand-chose. Et voilà, c'est tout ce que j'en pense.
Oui, je pense qu'en plus, tout le monde s'est un peu emballé justement avec la mode du zombie. Donc en plus, dès que l'info a infiltré, je pense qu'il y a eu interprétation sur interprétation et fantasme. Justement aussi parce que la vie est souvent un peu triste pour beaucoup de monde et que c'était bien, ça a amené un petit peu de piment. Et il y a eu beaucoup de récupérations. Sans le net, on n'en aurait pas entendu parler. Hein. Ça aurait été vraiment un fait divers dans un coin. Là, ça a fait le buzz, comme on dit, justement parce que y a des médias d'information et des gens qui ont des blogs, des choses comme ça, qui ont un peu surinterprété. Après, pour la récupération, c'est marrant parce que j'ai mon éditeur qui voulait faire de la récupération. Moi, il m'a dit, ça te dit pas qu'on essaye de faire quelque chose. Donc je lui ai dit que moi, je voulais absolument pas faire ce genre de truc parce que c'est de la merde. C'est pas, moi, je préfère qu'on parle, si on doit faire de la promo sur la BD, je préfère que ça soit pour la BD et que les gens soient intéressés par la BD et pas parce que ça peut ressembler à un fait divers qui s'est passé, sachant qu'en plus, ça n'a rien à voir. Mais bref, je trouvais ça très racoleur et très, très stupide, tout simplement. Donc. Après, je sais pas s'il y en a qui s'en sont servis après. J'ai pas suivi du coup, parce que je me suis un peu détaché du truc. Mais c'est intéressant de voir. Mais c'est presque sûr que je vois bien une bande-annonce justement pour la série Walking Dead sur la chaîne ou n'importe quoi. Avec un. Ouais, voilà. Je pense que ça a dû être fait. Les gens. Enfin, en ce moment, on a un peu tout et n'importe quoi justement grâce au net. C'est très très bien. Mais il faut savoir maintenant prendre les choses avec distance, je pense. Et voilà. Je pense que ça a pris énormément d'ampleur du fait de la mode des zombies et du fait que des gens l'ont relayé. Mais c'est tout en fait. D'ailleurs, justement, ça a été démenti que les gens mangeaient les gens. Pour les vampires. Ah, il y avait des vampires aussi.
Les mêmes types de faits divers pour les vampires.
Des gars qui brillaient le jour, des trucs un truc de fou. Ça faisait flipper.
Et
d'accord, puis on va poser une question, peut-être
une autre question.
Je suis d'accord avec vous.
Peut-être une ou deux questions.
Une question.
Moi, j'en ai une autre. Moi, j'ai toujours pensé que Georges Romero portait une critique assez un peu de la société à travers ses films. Et je voudrais savoir ce que vous feriez actuellement pour critiquer la société. Si vous aviez à rédiger un texte ou un article, quelque chose, qu'est-ce que vous feriez?
Vas-y, vas-y, approche.
Oui, je pense qu'à partir du moment où on raconte une histoire, à moins de faire on apporte une critique dans son sens large, pas forcément, une critique peut être positive, peut être négative, c'est un point de vue. Donc à partir du moment où on raconte une histoire, on apporte un point de vue et une critique. Donc, après, est-ce qu'il y a besoin du zombie? J'en sais rien. Romero l'a fait de manière... pas forcément super subtile non plus, mais intéressante. Et puis il a commencé il y a longtemps, donc c'est voilà. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Moi, je pense que c'est pour ça que j'aime pas Walking Dead. J'arrive pas. Alors moi, je me suis resté à la BD. Ça fait 5 fois que j'essaye de lire le premier tome parce que je me dis que je passe vraiment à côté de quelque chose puisque tout le monde a l'air d'aimer, au moins au niveau de qualité scénaristique. Et j'ai rien trouvé de très très intéressant à part justement ces trucs très évidents de ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé, les gens ne sont plus comme on croyait, le gentil va devenir peut-être méchant, ou peut-être que. Enfin. Je pense que les critiques doivent être implicites, mais j'aime pas trop quand on fait quelque chose pour critiquer la société. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien dire ce qu'il pense, mais quand on raconte une histoire, c'est l'histoire qui est importante, pas la critique. La critique peut être en dessous, ça peut même sortir. Et justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'écris une histoire, personnellement, bien sûr, j'y glisse 2-3 petits trucs parce que je peux pas m'en empêcher, mais globalement, je laisse un peu couler l'histoire, je laisse vivre mes personnages. Et après, justement, il y a des interprétations. Et j'attends les interprétations, en fait, justement. C'est ça qui est intéressant. Ça permet de voir un peu et ça permet, des fois, de voir si ça tape à côté ou si, de, par rapport à ce que je pense, moi, si je devais faire une interprétation. Je suis assez un peu schizophrène, en fait. Comment utiliser le zombie pour critiquer la société? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'utiliser le zombie pour critiquer la société? C'est plutôt ça, en fait. Je peux parler de la question.
Ouais, je trouve que c'est une plutôt belle question, en fait. Moi, j'aurais envie de l'utiliser si je l'utilisais sous le mode du décervelage. C'est-à-dire que pour moi, le zombie, ce qui est marrant, c'est comment on utilise le mot zombie dans le langage courant. On dit, oh, lui, c'est un zombie, ou peut-être il s'est complètement zombifié, machin. C'est-à-dire que dans le langage courant, l'imaginaire banal, le zombie, c'est quelqu'un dont on a enlevé la conscience. C'est-à-dire que c'est un humain sans humanité, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de réfléchir, il n'est pas capable de piger, il réagit mécaniquement, il a la limite de la mort clinique. Tout en ayant un corps quand même qui existe encore, qui respire, avec un cœur qui bat, etc. Et ça, c'est des phénomènes effectivement qu'on voit un peu partout dans nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des mamans, je ne sais pas si vous allez dans un call center ou si même moi dans la boîte de jeux vidéo où j'étais, quand tu rentres, même si les gens sont en train de travailler, tu vois d'abord des corps assis devant un écran, avec des tables noires, des écrans noirs et des gens qui ont l'air complètement zombifiés par leur activité uniquement nerveuse liée à l'écran. Et je trouve que ça a un affect très fort, le zombie, là-dessus. C'est-à-dire pour traduire, un corps qui n'est plus qu'un corps vide, avec un cerveau complètement arraché, enlevé, et pourtant c'est des gens qui font des actes, des routines, qui obéissent à des habitudes, etc. Quoi. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est une figure de la mort à l'intérieur de la vie, mais là la mort se traduisant par l'incapacité à penser, l'incapacité à ressentir, l'incapacité à réagir à des stimuli extérieurs, l'incapacité à apprécier le neuf, le nouveau, à être en vie, au sens où être en vie c'est être mobile, c'est être capable de lien, c'est... Donc cette figure-là, ouais, me paraît intéressante pour amener l'affect de la mort vivante. Voilà, de la mort vivante. C'est vraiment ça, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant. Mais par contre, dans ce cas-là, les stigmates dont je parlais tout à l'heure sur les plaies, les blessures, l'amputation, m'intéressent moins que la capacité. Il y avait un film comme ça qui était génial, que j'ai vu aux Utopiales, qui était un film norvégien où on voyait quelqu'un arriver dans une ville pour se faire embaucher dans une boîte. Et on comprend qu'il est dans les limbes, en fait, qu'il est au-delà de la mort. Sauf que c'est une société comme la nôtre et que le gars, il est dans une boîte normale. Mais les gens, ils vivent comme des morts vivants. Mais ils sont parfaitement normaux en costard cravate, ils te parlent, ils l'invitent même à manger, ils baisent, machin. Mais la façon de baiser est tellement mécanique, est tellement froide, tellement désincarnée que tu...
c'est un zombie baisant, quoi. Tu vois, pourtant la nana est normale, le mec est normal. Et c'est absolument remarquable parce que sans stigmate, justement, sans utilisation de toute l'esthétique stigmatisante du zombie, il arrive à transcrire l'idée même du zombie en justement social-démocratie norvégienne, hyper autorégulée, l'horreur. Voilà. Ouais, c'est vachement intéressant.
Alors, on arrive au bout de différence. Pedro, ne m'ayant pas encore jeté de bouteille, je suppose que j'ai tenu les délais. Si vous avez d'autres questions, je suis certain que je vais vous
Non.
Voilà, bah, débrouillez-vous les deux. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu à fond et d'avoir abordé des sujets aussi intéressants. On aurait bien aimé continuer, mais on en a plus, très sincèrement. Voilà. Bonne chance pour la suite.
Merci à toi. Au modérateur.
Je précise une chose, la question de l'érection zombie était un énorme troll.